chers auditeurs, voici l'émission Les Marches de la Foi, proposée par le service diocésain de formation continue. Catherine Mann avec vous cette semaine, je suis chargée de la formation biblique dans ce service. Et je vous parle aujourd'hui d'une formation qui est proposée par le service diocésain sur le thème « La Bible et son histoire » qui aura lieu le mardi 13 mars de 14h à 17h à la Visitation, 22 avenue d'Aligre à Chartres. Il y sera question bien sûr de réfléchir à l'histoire de la Bible, mais au sens large, c'est-à-dire dans tous les aspects que recouvre le mot « histoire » dans ce cas. Il y a bien sûr d'abord l'histoire de la rédaction, dans un premier temps ce que nous appelons l'Ancien Testament, mais qui reste aussi le Livre Saint du judaïsme, qui s'est élaboré à partir de la mémoire de la tradition orale, et il se fera une mise par écrit très progressive qui va s'échelonner sur un millénaire à partir de moments importants de relecture des événements dans les grandes périodes de crise, comme la destruction de Samarie, celle de Juda. Et la période faste pour les écrits sera bien sûr l'exil à Babylone, mais il y eut encore des ajouts et des relectures à la période perse puis à la période grecque. Et enfin, la dernière crise, celle de la destruction totale de Jérusalem par Rome, va aboutir au canon définitif du Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, qui sera fixé au IIe siècle. Mais qui sera en fait pas totalement achevé, parce qu'il faut encore tout le travail des Massorètes qui, lui, va s'étendre jusqu'au XVe siècle, à la naissance de l'imprimerie. Hein, vous savez, c'est tous ces petits ajouts de division du texte, découpage des versets, on ajoute des accents et des voyelles pour la lecture, etc. Alors, deuxième pan de cette histoire de la rédaction, c'est celui du Nouveau Testament, qui commence aussi par une période de tradition orale, puisque les premiers écrits n'apparaîtront qu'entre 50 et 95. Et le canon lui-même du texte du Nouveau Testament ne sera fixé qu'aux alentours du IVe siècle. Et cela se fera, comme d'ailleurs pour l'Ancien Testament, en sélectionnant certains textes, en écartant d'autres, et en choisissant parmi la grande quantité des manuscrits existants. Cela ne se fit pas sans de nombreuses discussions pour décider de ce choix d'écrit, et il subsiste d'ailleurs des variations selon que l'on parle du canon des Écritures dans le christianisme catholique, orthodoxe ou protestant. Nous n'avons pas totalement les mêmes Bibles, et notons que le mot « Bible » n'a vraiment pris de sens qu'avec le christianisme, car il désigne l'ensemble des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, alors que le judaïsme parle de « Torah », ou de Tanakh, mais l'usage admet aussi l'expression « Bible hébraïque ». Alors, deuxième thème de ce mardi, nous devrons parler de l'histoire de la réception de la Bible, l'histoire du rapport des chrétiens à ce livre sacré, car nous devons nous rappeler comment les chrétiens ne se sont appropriés que très progressivement la Bible, dont la lecture fut longtemps difficile d'accès aux laïcs, qui ne savaient pas lire ou qui ne connaissaient pas le latin, et souvent réservés au seul clergé par crainte des interprétations erronées ou malveillantes, et ça surtout au moment de la crise du protestantisme au XVe siècle. La réception suppose l'histoire de l'interprétation, et nous évoquerons inévitablement la question du fondamentalisme. Le problème d'une lecture au premier degré qui débouche sur du fanatisme et même de la violence. Rappelons-nous l'Inquisition, l'affaire Galilée, tous ces problèmes de la Bible prise au pied de la lettre. Et évidemment, tout ça disparaîtra avec le XVIIe siècle et la naissance de l'esprit scientifique. La lecture de la Bible va changer considérablement. Les sciences et l'histoire vont imposer une révision de la compréhension des textes. La Bible ne sera plus un livre de référence scientifique, sauf pour certains fondamentalistes créationnistes qui existent encore de nos jours. Au XIXe siècle vient la crise dite moderniste. Le pape Léon XIII doit promulguer une première encyclique sur l'étude des textes bibliques. l'encyclique Providentissimus Deus en 1893, où il précise que la Bible n'est pas un livre de science, mais un livre qui contient des vérités et qui donne les moyens nécessaires au salut selon la théologie et la dogmatique catholique. Il y a, dit-il, une révélation surnaturelle renfermée dans les livres saints et canoniques, parce qu'étant écrits sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur. En recadrant ainsi la lecture de la Bible, Léon XIII veut bien sûr protéger l'interprétation catholique des Écritures contre les attaques virulentes du rationalisme scientifique, mais il pressent pourtant qu'un ancrage historique sera nécessaire pour éviter un autre excès, l'excès de l'exégèse trop mystico-désincarnée, qui est également un danger pour la foi chrétienne. Donc, à cette époque, fin 19e, l'exégèse historico-critique va donc commencer peu à peu à s'imposer et s'épanouir au 20e siècle. Du coup, il faudra aussi évoquer l'histoire de la critique historique, parce que les méthodes changent, et les théories aussi. Rappelons que l'histoire n'est pas une science exacte, une science humaine sujette aux interprétations un peu subjective. Et il y aura aussi une autre évolution à partir de ce moment-là. Il va y avoir l'histoire des traductions en langue profane, et cette histoire-là n'est pas encore achevée. En effet, Pie XII et son encyclique Divino Afflente Spiritu en 1943 a encouragé l'Église catholique à céder s'apostrophe de toutes les sciences modernes pour approfondir la compréhension des Écritures. Donc, il incite à la critique littéraire, la critique textuelle, la critique historique, l'aide de l'archéologie, la paléographie et la connaissance des langues originelles des écrits, hébreu, grec, et les nouvelles traductions qui pourront en découler. Donc la méthode historico-critique, qu'on appelle aussi approche scientifique de la Bible, règne donc encore en maître aujourd'hui. Avec toutefois quelques nouvelles réactions, comme par exemple celle du pape Benoît XVI, qui engage à prendre garde à ne pas s'arrêter à la science historico-critique, à ne pas oublier que les Écritures ne nous ont pas été données pour exciter notre curiosité ou fournir des sujets d'études ou de recherche, mais, comme dit saint Paul, pour nous donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ et en vue de rendre l'homme parfait. Donc Benoît XVI incite à aller plus loin pour mieux accéder au témoignage de foi et ne pas passer à côté de l'essentiel, car il y a un danger à vouloir rechercher à tout prix de nouvelles hypothèses scientifiques, c'est qu'elles finissent par devenir théologiquement insignifiantes, dit-il, et surtout à perdre tout le sens spirituel. Benoît XVI préconise donc ce qu'il nomme une exégèse canonique, une lecture donc théologique du texte tel qu'il nous a été donné, en expliquant la Bible par la Bible, selon l'exégèse traditionnelle déjà présente dans le judaïsme, et également en revenant à l'antique exégèse typologique qui n'a rien perdu de sa valeur aujourd'hui. Nous parlerons donc aussi d'une histoire de la lecture de la Bible, car chaque époque a ses propres besoins. Ainsi, il s'agit toujours d'adapter les études bibliques aux besoins du moment. C'est pourquoi de nouvelles propositions de lecture sont apparues dans l'histoire récente. La sémiotique, la narratologie, l'analyse rhétorique, etc. Donc des méthodes qui ne s'intéressent plus au contexte historique et culturel extérieur, mais au texte lui-même, dans sa structure et son organisation interne. Et surtout dans ce qu'il veut signifier au lecteur. Il s'agit de lecture synchronique du texte tel qu'il est fixé par le canon et cependant toujours laissant une disponibilité aux nouvelles interprétations pour en approfondir le sens. Alors, le point fort d'une lecture historique, c'est surtout ce que révèlent toutes les différentes techniques, c'est-à-dire la lecture de l'histoire sacrée qui nous est racontée tout au long de la Bible. Le rapport de Dieu et de l'humanité depuis son apparition jusqu'à la naissance d'une nation particulière, Israël. Et l'histoire dramatique de cette nation destinée à engendrer le Messie, Jésus, fils de Dieu, qui vient récapituler toute l'histoire humaine pour la conduire à sa perfection. Enfin, tout le Nouveau Testament vient ensuite nous inviter à entrer nous-mêmes dans cette histoire sainte en communiant à la mort et à la vie du Christ, en devenant, comme dit saint Jean, des sarments de cette vigne unique dont nous parle en fait toute la Bible. Alors, pourquoi lire, étudier et méditer la Bible et son histoire? Parce que, nous dit saint Jérôme, c'est déjà vivre au paradis. C'est ce que disait déjà la Kabbale dans le judaïsme. Mais pour nous, chrétiens, c'est côtoyer le Christ vivant, apprendre à connaître son histoire, à nous confronter à elle pour qu'elle transforme notre propre histoire et nous rende dignes d'une vie éternelle en présence de Dieu. En tout cas, rappelons-nous ce que disait Étienne Charpentier, la signification des textes ne sera définitivement donnée que quand l'histoire arrêtera d'exister. Or, l'histoire se poursuit, l'histoire biblique continue donc en nous et après nous. Voilà donc tout ce dont nous parlerons au cours de cet après-midi du mardi 13 mars, de 14h à 17h, rencontre donc sur le thème de la Bible et son histoire, qui vous est proposée à la Visitation, 22 avenue d'Aligre à Chartres. Et je vous dis maintenant au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt. Mais je vous rappelle que si vous le désirez, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Grand Ciel.